Donc Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain.
Eh bien, ils sont grands. Hein. Voilà. Nous sommes arrivés au Jourdain. Ça n'a pas été facile. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Entre le moment où le peuple est sorti d'Égypte et le moment où le peuple a passé le Jourdain, il s'est écoulé 40 années. Il s'est écoulé au moins 38 années de trop. En un an, ils auraient pu faire le parcours, mais ils auraient pu le faire peut-être en 2 ans. Mais 40 ans, c'était beaucoup trop long. Le but de Dieu n'était pas que le peuple erre dans le désert, qu'il tourne dans le désert, qu'il s'établisse dans le désert. Le but de Dieu, c'était que le peuple traverse le Jourdain et qu'il s'établisse dans le pays de la promesse. Alors, bien sûr, quand vous lisez l'Exode, hein, les Nombres et le Deutéronome, vous vous rendrez compte que le peuple n'a pas obéi. Et qu'il y a eu beaucoup de transgressions et puis beaucoup d'incrédulité. Et même il y a un passage biblique qui dit que Dieu a fait mourir les incrédules. C'est avant de passer le Jourdain. Donc quand le peuple a passé le Jourdain, c'est une autre nation que celle qui est sortie d'Égypte. C'est le même peuple d'Israël, mais ce ne sont pas les mêmes hommes. Il y a des personnes qui sont... qui ont passé la mer Rouge et puis qui sont mortes. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, ces gens-là mouraient. Jusqu'au moment où la nation Ces enfants qui n'avaient pas vraiment connu l'Égypte, eh bien, sont devenus des adultes et ils sont arrivés en face du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, c'est le pays de la promesse. C'est les promesses de Dieu. C'est devant chaque chrétien, il y a un pays des promesses de Dieu. Vous pouvez tourner votre vie chrétienne comme vous voudrez. Dieu a des projets pour vous et il a fait des promesses et il fait des promesses. Si nous ne sommes pas au bénéfice des promesses, c'est notre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et souvent, quand nous sommes en échec, eh bien, on met Dieu en cause. Et on dit, ben, c'est parce que tu ne m'as pas montré, parce que mon éducation, parce que je n'ai pas ceci, parce que on a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire ce que l'on doit faire. Et on met la faute sur les autres et aussi on met la faute sur Dieu. Eh bien, des personnes disent, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Mais qui a raison? Vous ou Dieu? Mais moi je dis Dieu. On a l'habitude donc de mettre toujours Dieu comme responsable de nos échecs. C'est une chose que j'ai dite il n'y a pas longtemps dans le cours des disciples, c'est que Dieu ne donne jamais une loi que l'on ne puisse pas suivre. Parce que si il donnait une loi que l'on ne puisse pas suivre, c'est un tyran. Il exercerait une tyrannie. Dieu a donné une loi que nous pouvons suivre. Le problème ne vient pas de la loi de Dieu, ne vient pas de Dieu encore moins, mais vient de nous. Nous n'avons pas le désir de suivre la loi et nous n'avons pas non plus de vraies motivations. Et puis ensuite, eh bien, il y a une nature pécheresse qui nous tire vers le bas. Mais la loi de Dieu, eh bien, elle est bonne, elle est puissante, elle est grande. Et le peuple d'Israël aurait pu avancer jusqu'à la terre promise et entrer dans la terre promise dès le début de son parcours dans le désert. Le désert n'était pas une obligation, mais le désert est un enseignement. Et quand cette période du désert, eh bien, doit nous servir de leçon, parce que le peuple s'est détourné de ce que Dieu avait dit. Et comme il s'est détourné, eh bien, il a erré. Et c'est dommage. Vous prenez l'histoire de l'Église, vous pouvez prendre l'histoire de la génération, de notre génération, et même de ma génération. Je me rappelle de certaines choses qui se passaient à une certaine époque, et l'Église était dans le désert. Le peuple tout entier errait dans le désert. Et je me rappelle les prédications. Vous pouviez lire votre Bible, ça n'allait pas beaucoup plus loin qu'une lecture biblique. Et je me rappelle de quelqu'un qui faisait la réflexion et disait, heureusement qu'on a la Bible, qu'on a eu un passage biblique, parce qu'on n'a rien compris à ce que dit cet homme. Et malheureusement, c'était souvent comme ça. Et souvent, c'est comme ça. C'est un parcours dans le désert. Le peuple a faim et il a soif et il n'est pas nourri. Et c'est dommage. Ça, c'est le drame de l'Église, c'est le drame de nos vies. Quand nous lisons notre Bible, nous ne sommes pas motivés à chercher Dieu, à vraiment vouloir rencontrer Dieu, alors on erre dans le désert. Et beaucoup de chrétiens errent dans le désert pour une raison, c'est que ce que dit Dieu, ils ne veulent pas le mettre en pratique. Et vous pouvez résister des années, et vous pouvez même résister toute votre vie, parce qu'il y a des personnes. Et l'immense majorité est morte dans le désert. Ils ont tourné, et ils n'ont pas tourné 40 ans, hein, beaucoup moins même certains. Mais ils sont restés dans le désert. Leur corps est tombé dans le désert. Ils ont été enterrés parce qu'ils n'ont jamais espéré entrer dans le pays de la promesse. Ils n'avaient pas cette volonté et ce désir d'entrer dans le pays de la promesse. Il y a dans nos vies, une certaine passivité, un certain laisser-aller. On laisse courir les choses. Et puis pourquoi, après 40 ans, n'ajouterions-nous pas une 41e année et une 42e et toute notre vie à errer dans le désert? Mais il y a un moment où on prend une décision, c'est de passer le Jourdain. Et ce jour-là est un jour qui se marque dans la vie. Alors, beaucoup de personnes ont parlé de cela comme une deuxième expérience. Voilà, il y a une première expérience, on quitte l'Égypte, on traverse la mer Rouge, et le Jourdain est une deuxième expérience. Pas du tout. Il n'y a pas de deuxième expérience, il y a une expérience. Point final. Et dans cette expérience, il y a des expériences. Mais c'est cette expérience-là qui est la garantie de toutes les autres. Vous pouvez dire, le Seigneur m'a exaucé dans les prières. Le Seigneur a conduit ma vie dans telle situation. J'ai appris des choses de telle et telle manière. Tout ça, vous pouvez dire, ce sont des expériences. Mais cette expérience-là, elle existe parce qu'un jour, Jésus-Christ est devenu votre sauveur. Parce que vous avez été réconcilié avec lui, parce que vous êtes né de nouveau. Et toutes les autres expériences, eh bien, sont contenues dans celle-là. Et elles sont potentiellement dans celle-là. Alors, l'expérience du passage du Jourdain est une expérience, mais pas une deuxième expérience à mettre en équivalence avec notre salut. Notre salut, c'est l'expérience. Après, il y a des étapes dans notre vie chrétienne et que nous appelons aussi des expériences. Mais cette expérience de passer le Jourdain est absolument primordiale et essentielle et elle est la continuation logique de notre salut et de notre conversion. Ce n'est pas que nous... Il y a des personnes qui ont une expérience et puis ils ont... Et puis certains, voilà, ils ont la bénédiction, le privilège d'avoir une deuxième expérience. Eh bien, pas du tout. Si vous n'avez pas cette expérience du Jourdain, vous êtes dans la désobéissance. C'est parce que dans votre première expérience, il est compris que vous devez faire celle du passage du Jourdain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème de vouloir séparer les choses et de croire qu'il y a plus un éventail de possibilités et que si vous avez fait, j'ai fait 10% de ce que Dieu prévoyait pour moi dans sa bienveillance. Ah mais 10%, c'est pas mal quand même, hein. Il y en a qui ont fait que 5%. Il y en a qui font 20%. Ouais, ceux-là, ils sont allés loin. C'est leur expérience, mais pas du tout. Vos 10%, eh bien, ne servent à rien. C'est devant Dieu, c'est tout ou c'est rien. Dieu veut un cœur tout entier, un cœur complet. Il y a même de braves Israélites qui étaient à 40% dans le désert. Mais ils sont morts dans le désert parce qu'il leur manquait suffisamment pour ne pas entrer dans le pays de la promesse. C'est très important. Quand nous lisons ces versets du passage du Jourdain, on voit que Dieu avait prévu quelque chose de l'autre côté. Il y a la promesse, les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu avait dit dans le passé, depuis Abraham jusqu'à eux, eh bien, était de l'autre côté du Jourdain. C'est la barrière à franchir, c'était le Jourdain. Il y avait des bénédictions avant le Jourdain. Il y avait même des conquêtes. Il y a eu des victoires. Il y a eu des exaucements aux prières. Il y a eu des multitudes de choses passionnantes avant de passer le Jourdain. Mais tant qu'ils n'ont pas passé le Jourdain, ils n'ont pas vraiment obéi. C'est là que tout se fait. C'est ce passage du Jourdain. C'est ce moment où on entre dans une relation plus profonde et plus sérieuse avec Dieu. C'est le passage du renoncement à soi-même, où on accepte de perdre sa vie. Il y a dans la vie de certains chrétiens, ils peuvent dire, ce jour-là, j'ai fléchi le genou devant Dieu. Il est devenu le Seigneur de toute ma vie. Je n'ai plus eu une vie indépendante de Dieu. Et c'est ce passage du Jourdain. C'est le Jourdain nous parle d'un affranchissement. C'est l'affranchissement de nous-mêmes. Le passage de la mer Rouge, c'était l'affranchissement du monde, de l'Égypte, du péché, de l'esclavage. Mais quand on passe le Jourdain, c'est l'affranchissement de soi-même. Parce que le pire ennemi que nous ayons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas votre voisin, n'est pas votre mari ou votre femme, ce n'est pas vos enfants. Il y a des personnes, hein, vous dire, si mon père avait été plus, ou ma mère, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon grand-père, vous pouvez. Mais la personne qui prend la décision, toujours, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai, il y a des personnes qui ne vous ont pas dit tout ce qu'elles auraient dû vous dire. Elles ne vous ont pas enseigné comme vous devriez l'être. Alors c'est vrai que vous avez peut-être perdu du temps à cause de quelqu'un. Mais si vous aviez vraiment cherché, eh bien Dieu vous l'aurait dit quand même. C'est il y a des chrétiens qui ont pu crier à Dieu et demander à Dieu une intervention de Dieu dans leur vie. Et Dieu est intervenu par un livre, par une parole qu'ils ont entendue, par des multitudes de choses que Dieu a mis sur leur chemin. C'était un événement, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et au bout du compte, quand on regarde en arrière, on se dit, mais mon chemin était jalonné d'exaucement aux prières. Et comment je pouvais être conduit jusqu'à aujourd'hui? Et donc, ce passage du Jourdain est très important. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est de l'autre côté, il y a le pays de la promesse. C'est alors, de l'autre côté, le pays de la promesse, c'est pas le paradis, hein. Il y a un cantique, hein, qui dit « De Canaan, quand verrai-je le céleste rivage ?» C'est pas vrai, hein. Il y a une fausse doctrine dans ce cantique. De Canaan, c'est pas un céleste rivage. C'est des Cananéens et ils vous aiment pas, ils vous veulent pas. Et les promesses de Dieu, mais elles sont là. Et vous êtes dans l'obéissance, mais c'est un combat. Si je peux dire, quand vous lisez le livre de Josué et que si vous avez déjà lu Le Voyage du Pèlerin, vous pouvez voir le voyage du pèlerin dans le livre de Josué. C'est un pays de combat. D'ailleurs, le pèlerin, il s'arme de toute l'armure de Dieu, hein. C'est dans Éphésiens chapitre 6, il prend toute l'armure à un certain moment. Et à partir de ce moment-là, il entre dans les promesses de Dieu, dans l'obéissance, mais c'est un combat. Et même son ami, hein, qui s'appelle Fidèle, eh bien, il meurt prématurément. C'est martyr pour sa foi. Donc vous avez dans tout cela l'histoire du pèlerin. Et en fait, c'est cela. Nous marchons, nous avançons dans le pays de la promesse. Mais avant, si nous sommes chrétiens, il faut avoir passé le Jourdain. Et ce Jourdain, c'est nous-mêmes. C'est votre chair, c'est votre moi. C'est votre moi égoïste, c'est votre moi qui se cherche lui-même, qui veut les bénédictions de Dieu pour lui, qui est pris pour avoir un avantage, qui veut avancer dans la vie chrétienne pour dépasser les autres, qui a des besoins personnels toujours. Tandis que quand on passe le Jourdain, eh bien il y a une autre vision. On entre vraiment dans le combat de Dieu. On entre vraiment dans l'œuvre de Dieu. On est dans le plan de Dieu et dans la gloire de Dieu. On cherche à ce que Dieu soit connu et à conquérir pour Dieu. Ce n'est pas notre recherche personnelle n'est plus là. Souvent, j'entends des chrétiens dans les prières. On se dit, mais il n'a pas encore passé le Jourdain. Il y a trop de moi. Il y a trop de mes intérêts. Il y a trop de ma recherche. Quand vous parlez avec certaines personnes, vous voyez que tout de suite, c'est l'homme, l'être humain qui est là. Et il n'y a pas Christ. Alors bon, je ne veux pas dire, hein, nous en sommes tous là, hein, un jour ou l'autre, il faut passer le Jourdain. Certains l'ont passé, certains n'ont pas passé. Donc ce n'est pas un jugement que je prononce sur quiconque. Mais c'est néanmoins, je dis des choses d'une manière pressante, parce que il est essentiel d'avoir passé le Jourdain et d'avoir traversé, d'être de l'autre côté. Parce que même si vous avez des exaucements dans le désert, vous n'êtes pas dans la plénitude de la volonté de Dieu. Le désert n'est qu'un petit passage et on entre dans le pays de la promesse. Et ce qui nous arrête, c'est notre moi. C'est qui dit, ça va être difficile, hein. Je me rappelle un homme qui parlait de comment on renonce à soi-même. Alors, bon, bien sûr, il expliquait les choses, très intéressant. Il dit, voilà, j'ai un petit garçon. Alors, il dit, tu sais, papa, maintenant, je vais t'obéir. Je vais faire tout ce que tu me demandes. Et jamais plus, je vais montrer, quand tu me dis de me lever, je vais me lever. Quand il faut se laver, je vais me laver. Tout, il n'y a pas de problème. Et le père lui dit, bon, à partir de maintenant, tu n'as plus de jouets. À partir de maintenant, tu vas voir comment ça va être dur. C'est beaucoup de chrétiens pensent que quand ils renoncent à eux-mêmes, eh bien, ils vont avoir des problèmes. Il y aura des difficultés, comme si Dieu était un tyran, comme si Dieu voulait les brimer et les empêcher d'être joyeux, de s'épanouir et d'avancer. Non, ce que Dieu veut nous enlever, c'est notre moi égoïste. Et notre pire ennemi, c'est ce moi égoïste. Parce qu'il a des désirs qui ne sont jamais satisfaits. Il a des passions insensées. Il a des besoins que, au bout de 2-3 ans, on se dit, mais qu'est-ce que je me suis embarqué à acheter ce truc-là, que ça ne me sert à rien du tout. Mais pour le temps, j'en avais envie, j'en avais envie, j'en avais envie. Et puis voilà, maintenant, ça ne me sert plus à rien. Au contraire, ça m'encombre. Et c'est comme cela. Notre égoïsme, notre moi, c'est notre pire ennemi. Et nous croyons que si nous renonçons à nous-mêmes, eh bien, il va y avoir un prix lourd à payer. Mais au contraire, quand nous avons renoncé à nous-mêmes, quand nous avons traversé ce Jourdain et que nous entrons enfin dans la plénitude des promesses de Dieu, mais il y a une joie immense, une paix parfaite, une communion avec Dieu inestimable. Et je peux vous dire, rien ne vaut sur ce monde la perte de la communion avec Dieu. Vous pouvez gagner le monde entier. Si vous perdez la communion avec Dieu, vous avez tout perdu. C'est tout ce que ce monde peut vous présenter. Le diable peut vous présenter des multitudes de choses. Il peut vous présenter un avenir brillant. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, vous allez être malheureux. Et on peut traîner une misère, une angoisse, une peine, une tristesse, quelque chose de terrible. Quand je suis dans le métro, je regarde les visages des gens et je me dis, mais quel problème ils ont, ces gens-là. Celui-là, il a un problème, hein. Son visage est torturé, il est triste. Je vois des personnes, le visage usé par les passions. On peut presque dire, celui-là, il est alcoolique. Celui-là, c'est ses jouissances. Celui-là, c'est cela. C'est cette liberté que l'homme revendique est un véritable esclavage. C'est une destruction de sa personne. Vous en passez à côté de quelqu'un, il sent la cigarette. Je vois des gens incapables. Dans le métro, ils roulent leur cigarette. Comme ça, ils sont prêts pour aller. Quand ils vont sortir, ils vont tout de suite l'allumer, hein. Ça, je peux vous dire, ils vont pas tarder, hein. Je vous dis, cet esclavage-là, c'est quelque chose de terrible. Je me rappelle, bon, je fais sur la cigarette. Je connaissais un homme, il avait abandonné la cigarette, il fumait plus. Alors, il était très très content et très fier, hein. Et il m'a dit, tu peux pas savoir comment je suis libre. Avant, le week-end, c'était terrible pour moi. Hein. Il fallait que je prévoie les cigarettes d'avance. Hein. Parce que si je ne les avais pas prévues, je devais prendre la voiture, aller au bureau de tabac pour acheter un paquet de cigarettes. Ou deux paquets, parce que c'était deux, trois paquets de cigarettes par jour. Hein. Et les allumettes. Et le briquet qui tombe en panne. Ah, le week-end. Eh bien oui, les briquettes tombent en panne le week-end. Et votre cigarette, vous ne pouvez pas l'allumer. Tourne ça parce que vous êtes libre de tout ça, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom sur la chose que je viens de dire. Ça peut être toutes les passions qui remplissent votre vie et elles vous laissent triste, insatisfait, et c'est un esclavage. Et c'est Satan essaye toujours de nous tromper et de nous séduire pour nous faire croire que le moment où nous allons vraiment donner notre vie à Dieu pour qu'il l'occupe et qu'il l'utilise, eh bien nous allons être perdants. Et que nous allons perdre, ah, vous allez perdre votre goût à ceci ou cela. Vous allez perdre votre goût à telle chose. Ces choses-là Vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu aimer ces choses-là? Comment elles ont pu être importantes? Et alors, vous allez trouver votre joie et vos délices dans la parole de Dieu. Vous allez avoir une petite voix à l'intérieur qui dit, prie. Prie pour un tel, prie pour une telle, prie pour l'Église, prie pour les âmes perdues, prie pour qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui entrent dans la moisson. Demande à Dieu ce réveil que tout le monde attend. Vous êtes en compagnie de Dieu et en collaboration avec Dieu. Vous entrez dans le combat, le vrai combat. Vous n'êtes plus en train de combattre et dire « est-ce que je vais tomber dans le péché ou est-ce que je ne vais pas y tomber ?» Aujourd'hui, je n'ai presque pas tombé. Hein. C'était vraiment... c'est pas comme hier. Hein. Et puis le lendemain, on s'est dit « mais c'est pas possible. Hein. » Hier, c'était bien. Hein. Aujourd'hui, alors, c'est une catastrophe. On marche en trébuchant. Tandis que quand on apprend à marcher avec Dieu dans la communion parfaite, dans la dépendance complète de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, alors à ce moment-là, il y a quelque chose d'immense, immense, un bonheur qui remplit votre vie, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce monde peut vous offrir tout ce qu'il possède. Ça n'a aucune valeur en comparaison d'une seule seconde dans la paix avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Et de sentir que l'on est utile dans la main de Dieu et que Dieu peut vous utiliser. Il vous arrive un petit événement que vous dites, mais c'est contrariant, hein, c'est pas comme j'aurais aimé. Et puis vous vous rendrez compte que cette contrariété, ce contre-temps, eh bien Dieu l'utilise pour que vous rencontriez une personne, pour que vous fassiez ceci ou que vous fassiez cela, que vous ayez... C'est comme ça. C'est cette marche avec Dieu. C'est la différence qu'il y a entre avant le Jourdain et après le Jourdain. Alors, je ne dis pas qu'avant le Jourdain, il n'y a pas de victoire. Hein? Il n'y a pas d'exaucement en prière. Vous lisez l'histoire d'Israël, comme dit Paul, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'instruction. Donc, quand nous lisons ces passages, on tire des instructions. Et on voit bien que dans le désert, ils ont eu des victoires, ils ont conquis du pays, ils ont obtenu des promesses, ils ont eu des multitudes de choses. Mais ce n'était pas l'autre côté du Jourdain. Ce n'était pas le pays des promesses. C'est en attendant le pays des promesses. C'est pour donner un avant-goût des promesses. C'est tout le problème. Et ce monde essaye de nous captiver. Et vous rencontrerez hein, beaucoup même de chers frères et sœurs en Christ qui vous diront, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus le même, tu es différent. Avant tu aimais ceci, maintenant tu l'aimes plus. Oui, c'est vrai, il y a des choses que l'on n'aime plus. C'est des choses qui étaient avant une passion pour nous et qui ne nous passionnent plus du tout. C'est cela, le passage du Jourdain. C'est une étape très importante. Alors, c'est vrai que le peuple d'Israël, devant le Jourdain, a eu quelques étapes. Hein. Il y a eu un temps pendant lequel ils étaient face au Jourdain et ils attendaient pour passer le Jourdain. Alors, il y a l'épisode des espions, il y a les promesses que Dieu a faites à Josué. Ça fait partie du passage du Jourdain. C'est ce qui précède le Jourdain. Dieu nous donne des directions. Il y a des choses que nous devons entendre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu as décidé de passer le Jourdain? Alors, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je ne t'abandonne pas. Vous entendez cette voix qui vous dit « continue ». C'est dur. Oh, c'est dur. C'est très dur parce que vous luttez avec vous-même. Hein. Je peux dire qu'il y a une agonie. Hein. On passe parfois par des semaines difficiles. Mais fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point. Ne t'effraie point. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec nous. Et nous avançons. L'ennemi s'acharne. Nous ne sommes plus compris du tout. Hein. On est dans une période de transition où il y a un avant et il n'y a pas encore un après. Nous sommes là devant le Jourdain. Et il y a l'envoi des espions. Il y a ces personnes qui vont et qui inspectent le pays. Vous examinez la parole de Dieu. Vous voulez savoir où sont les promesses de Dieu. Quels sont ces moments. Vous ne savez pas ce que vous avez derrière. Et vous avez besoin que Dieu vous donne une promesse ou vous donne des promesses qui vous encouragent et qui vous fortifient par sa parole, par sa présence. Il a dit qu'il le ferait. Mais il faut, si je peux m'exprimer ainsi, espionner la parole de Dieu, avancer dans les promesses et chercher une promesse, chercher un encouragement, chercher quelque chose qui va vous soutenir et vous fortifier dans cette lutte. Et Dieu prend soin de son enfant. Il prend soin de vous. Même si l'ennemi, même s'il y a un acharnement, même si vous, et puis même, il y a des moments où on dit Seigneur, c'est trop dur pour moi. Et on est tombé. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est, il y a des moments où on ne va pas jusqu'au bout. Et n'a pas réussi. Et le Seigneur nous dit, relève-toi, ne reste pas à terre. Relève-toi, prends courage, lutte encore. Et le combat est acharné, vous savez. S'il y a des batailles dans ce monde, s'il y a eu des gens qui se sont battus, rien n'est comparable à cette bataille que l'on a avec soi-même. Alors il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Ça, c'est certain. Mais pour certains, c'est une véritable agonie, hein. C'est très difficile et parfois il faut des années. Mais après être passé à travers toutes ces épreuves et tous ces moments difficiles, alors on change, on est quelqu'un de différent. Et on connaît bien quelqu'un qui est passé par les épreuves, quelqu'un qui est passé par cette lutte acharnée contre l'ennemi et surtout contre lui-même. Vous avez une indication très importante, c'est que il y a l'arche de Dieu qui marche devant nous. Vous avez remarqué, 2000 coudées. 2000 coudées, ça fait un tout petit peu plus que 700 mètres. 700 mètres. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Dieu parfois se tient loin, hein, parce que 700 mètres. Vous dites, Dieu est loin. Hein? C'est la sainteté de Dieu. C'est la distance que Dieu a imposée entre le peuple et l'arche. Mais c'est la distance qu'il y a entre la sainteté de Dieu et l'être humain qui n'est pas prêt encore à suivre Dieu comme il le faut. Il ne peut pas le suivre de près parce qu'il n'est pas encore suffisamment dépouillé de lui-même. Il y a encore quelque chose dans sa vie qui ne correspond pas à la sainteté de Dieu et que la sainteté de Dieu désapprouve. Et tant qu'il y a toutes ces choses, eh bien, il est obligé de suivre de loin. Et l'arche le précède de loin. Mais même si elle est loin, elle précède quand même. Et c'était la volonté de Dieu que ce soit comme cela, parce que le peuple n'était pas encore complètement sanctifié. Mais imaginez que dans ce que nous avons lu, hein, tout à l'heure, les sacrificateurs sont arrivés, ils se sont mouillés les pieds. Hein. Ce sont les seuls qui se sont mouillés les pieds dans cette histoire. Ils se sont mouillés juste les pieds. Mais une fois que les pieds ont été mouillés, hop, le Jourdain s'est ouvert. Alors le miracle, c'est que c'est juste. Dans le verset 15, il est dit, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire que le Jourdain déborde de son lit. C'est une inondation. En plus, le moment où Dieu a prévu de faire passer le peuple, c'était le moment d'une inondation. Alors, c'est un peu comme quand il y avait le sacrifice, vous savez, avec Élie. Et il y avait il a dit, creusez une rigole autour de l'autel, arrosez-le avec de l'eau. Non, c'est pas encore suffisant, arrosez encore. Et il faut que ça déborde dans la rigole, parce que les autres y priaient leur Dieu pour qu'il y ait quelque chose Une étincelle, ça leur aurait suffi. Mais il n'y avait pas avec ses... il n'y avait rien du tout. Est-ce que le prophète, lui, dit, eh bien, mouillez-le encore, mouillez, mouillez, qu'il y ait de l'eau, que vraiment creusez une rigole. Alors ils se sont dit, mais il ne va pas y arriver plus que nous, il a un truc, c'est pas possible. C'est... Mais non, non, c'était de l'eau. Et quand le feu est tombé, tout a été consumé, d'un coup. C'est... Et c'est les miracles de Dieu, c'est quand les choses semblent impossibles que là, Dieu se glorifie. Et donc, le peuple a traversé le Jourdain. Disons, les sacrificateurs avec l'arche ont traversé le Jourdain et le peuple a suivi. Mais quand le peuple a traversé le Jourdain, il n'y avait plus 700 mètres. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils approchaient de l'arche qui était dans le Jourdain, les 700 mètres se réduisaient. C'est au départ. Dieu semble loin quand on veut mettre vraiment sa vie en règle avec lui et que l'on a des choses à mettre parce que le fardeau il est lourd et il faut examiner bien, il faut chercher, il faut demander pardon, il faut mettre en règle. Il y a des multitudes de choses qui et Dieu est loin. Mais au fur et à mesure que l'on s'approche, que l'on avance, eh bien, on se rapproche de la présence de Dieu jusqu'au moment où on passe à côté. C'est on y est à côté. C'est il n'y a plus 700 mètres. Parce que 700 mètres, c'est la distance la plus grande. On ne pouvait pas être à une plus grande distance que 700 mètres. Alors il a dit, mais c'est 700 mètres. Mais au départ, mais au fur et à mesure, il y avait moins. Et dans notre vie chrétienne, quand nous faisons cette expérience de la mort à soi-même, eh bien, au départ, il faut mettre des choses en règle. Et parfois, eh bien, on passe du temps. Je peux vous dire une chose, soyez méticuleux quand vous faites ce genre de choses. On ne trompe pas Dieu. Il y a des choses qu'il faut mettre en règle, il faut les mettre en règle. Et l'obstacle, le plus souvent, c'est notre orgueil, qui ne veut pas mettre en règle, qui ne veut pas reconnaître surtout ses torts. On veut toujours passer pour un chrétien, un bon chrétien. Et passer pour un mauvais chrétien, c'est jamais une bonne chose. Et que jusqu'à présent, nous n'avons pas été le chrétien que nous devions être, ça fait, on n'aime pas ça. Je me rappelle, au cours d'une prédication, une dame avait été convaincue de péché, mais vraiment convaincue de péché. Elle s'est humiliée, elle s'est avancée, et c'était Madame une telle, la sœur d'un grand missionnaire. Et elle s'est approchée, elle a dit, je vous demande pardon. J'ai toujours cru que j'étais chrétienne, et aujourd'hui viens de me rendre compte que je n'étais pas. Je viens à l'instant d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, comme le plus grand des pécheurs. C'était dur, hein? Elle avait toujours été une bonne façade de chrétienne, mais elle n'avait pas été une chrétienne. Elle a eu le courage d'aller devant tout le monde et de dire, voilà, je vous ai trompé. Je me trompais moi-même, c'est vrai. Mais je vous trompais aussi. Je passais pour quelqu'un que je ne suis pas. Et c'est parfois très très dur, c'est humiliant. Mais après tout, est-ce que l'orgueil, est-ce qu'on a besoin de le ménager? C'est Dieu condamne l'orgueil. Et si c'est l'orgueil qui vous empêche de faire quoi que ce soit, alors abandonnez votre orgueil. C'est le premier péché qui a été commis, c'est l'orgueil. Satan a été le premier orgueilleux. C'est son premier péché. C'est le premier péché. Avant, il n'y avait pas de péché. Le premier, c'est l'orgueil. Alors, laissez tomber l'orgueil. S'il y a quelque chose à dire, eh bien, dites-le. S'il faut dire pardon, eh bien, demandez pardon. S'il y a quelque chose à mettre en règle, mettez-le en règle. Et quand on veut avancer avec Dieu, eh bien, il faut passer du temps et chercher ce qui ne va pas. Approfondir. Il ne faut pas faire de l'introspection, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui ont... C'est une... qu'on dirait une pensée morbide hein, qui les habite. Ils cherchent dans des petits recoins et des choses comme ça. Je me rappelle l'avoir fait et avoir eu une sale impression. Quelque chose, je ne me suis pas approché de Dieu. Hein. C'est au contraire, je me suis éloigné de Dieu parce que j'ai cherché dans des endroits où j'aurais jamais dû chercher. Et c'est Dieu ne nous demande pas d'aller si loin que ça. C'est la première personne qui m'a parlé de toutes ces choses m'a dit, tu sais, ce qu'il faut faire, c'est prier, vraiment prier avant, et demander, Seigneur, éclaire-moi sur ma vie, éclaire-moi sur les choses pour lesquelles tu veux que je te demande pardon. Vous prenez une feuille de papier, il m'a dit, hein, tu prends une feuille de papier et tu écris. Tu dis, Seigneur, montre-moi, et tu écris. Voilà. Et au bout de 5 minutes, tu arrêtes. Et c'est bien. Là, c'est bon. Et puis, il a dit, tu laisses pas traîner cette feuille. Hein, tu la déchires, tu fais ce que tu veux. Mais laisse pas traîner. Il y a quelque chose qui est entre Dieu et toi. C'est pas, ça concerne personne d'autre. Personne d'autre. Et ce conseil, je l'ai suivi. Et je peux vous dire, je m'en suis toujours trouvé bien. C'est demander. Parfois, il faut passer du temps. Hein. Vous avez peut-être besoin de passer une journée à prier, que le Seigneur vous éclaire, vous montre, que vraiment, quand vous allez noter, ce sont vraiment des péchés, ce ne sont pas des choses que vous imaginez, ou des états d'âme, ou des choses que Satan viendrait vous accuser, des choses des fantômes. Mais vraiment, ce sont des choses, des péchés que vous avez vraiment commis. Et alors, vous passez du temps dans la prière. Et puis après, une fois que vous l'avez fait, vous rendez grâce à Dieu pour vos péchés effacés par la croix de Christ, entièrement lavés par le sang de Christ. Vous êtes libérés et affranchis. Et ensuite, vous dites, Seigneur, prends ma vie. Je ne veux pas vivre une seconde sans toi. Je ne veux pas vivre une seconde en dehors de ta communion, en dehors de ta présence. Remplis-moi de ta présence complètement. Alors, ce passage du Jourdain s'appelle aussi la plénitude de l'esprit. C'est parce que quand nous avons marché comme cela, quand nous avons mis notre vie en règle, c'est un peu exact la même chose que ce que nous faisons quand on se convertit, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas qu'on se convertit une nouvelle fois, mais c'est que on met sa vie en règle. Et on revient aux mêmes étapes que la conversion, parce qu'il s'agit de péché, il s'agit de se soumettre à Dieu, d'obtenir le pardon et de reconnaître la seigneurie de Christ dans notre vie. Ce sont les mêmes étapes que pour la conversion. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, on est rempli du Saint-Esprit. Et il vient habiter en nous. Et il est libre d'agir en nous. Parce que il ne n'occupe pas un vase où il y a déjà quelque chose. Jamais. On ne peut pas faire de mélange. Il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit et le monde. Ce n'est pas possible. Soit il y a le monde, soit il y a le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où vous mettez soigneusement votre vie en règle et que vous demandez au Seigneur de remplir votre vie, de prendre la première place, de s'asseoir sur le trône de votre vie, que ce ne soit plus vous, mais lui qui prenne la première place, alors à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est en plénitude en vous. Ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose de fulgurant et voilà. Il y a des gens qui ont eu une expérience sensible, hein. Je ne veux pas condamner et dire, hein, mais la plupart des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit n'ont pas fait une expérience fulgurante avec de ceci et de cela et des. Ça, c'est un cadeau. Si vous l'avez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Mais il y a ce que dit la parole de Dieu. Et vous placez votre foi dans ce que dit la parole de Dieu. Une fois que vous avez mis votre vie en règle et que vous avez mis le Seigneur Jésus-Christ à la première place dans votre vie, alors, quand il sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est le Saint-Esprit, quand il vient habiter dans un chrétien, disons, il y habite, hein, mais quand il est dans la plénitude, eh bien, il ne manifeste pas le Saint-Esprit. Il manifeste Christ. Et un des premiers fruits du Saint-Esprit, c'est la nature de Christ qui se voit en nous. Les gens voient la douceur de Christ, la patience de Christ, l'amour de Christ. Mais ce n'est plus notre amour, ce n'est plus notre patience, ce n'est plus notre ceci, notre cela. C'est notre moi, il est derrière. C'est Christ. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il dit, hein, si néanmoins je vis dans la chair, c'est-à-dire dans une nature humaine, hein, physique, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je place ma foi dans le Fils de Dieu. C'est vrai que ma nature humaine, elle est là. Mais je continue à avoir la foi, à marcher par la foi et à me confier que l'œuvre de Christ est complète dans ma vie, définitive, et qu'il continuera cette œuvre jusqu'à son complet achèvement quand je le verrai face à face. Donc c'est vrai que l'étape du Jourdain n'est pas une petite étape. C'est une étape importante, mais après, il y a les promesses de Dieu qui s'ouvrent. Il y a des multitudes de choses. Alors là, il y a une collaboration avec Dieu. On marche avec Dieu. On est ensemble avec Dieu. Il y a une coopération avec Dieu. Paul disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est plus moi, c'est nous. C'est Christ et moi. Pas avant, ça c'est mon truc, ça c'est mon. Mais c'est spirituel, hein. C'est ma réunion de prière, c'est ma ceci, c'est mon moment avec le Seigneur. Non, maintenant c'est tout à fait différent. On ne se centralise plus sur soi-même et sur ses expériences du désert, spirituel du désert, mais c'est Christ en nous, c'est la vie de Christ en nous. Et c'est ce passage du Jourdain. Et quand nous avons passé le Jourdain, eh bien nous avons passé une grande étape. On reviendra une autre fois là-dessus, il y a des choses encore à dire.